Merci tout d'abord de cette invitation. Hein. C'est, voilà, dans une période un peu compliquée pour nous à l'université, voilà, c'est un bain de jouvence là. Je vais partir du constat très très simple qu'on a actuellement une convergence de travaux académiques qui montrent l'impact de l'hyperfinanciarisation sur les inégalités, de l'hyperfinanciarisation dans la difficulté qu'on a à financer la transition écologique, de son impact sur la croissance potentielle, etc. Et pourtant, 10 ans après la crise financière globale qu'on a connue, certes, la finance a été réglementée. On peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Mais de toute évidence, ce qu'on a fait n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on aurait dû faire pour remettre la finance dans son lit et que la finance ne soit pas prédatrice, comme elle l'est encore aujourd'hui, de la société. Donc, je pars de la question. Et alors, ce qui est important, c'est que cette question que je me pose, et bon, voilà, il y a un ouvrage qui est en préparation, est vraiment liée à ma confrontation au lobby bancaire et au fait de l'avoir vu fonctionner. Donc, ma question, c'est comment expliquer cette faiblesse des États dans la reprise en main de la finance et dans la promotion d'une finance au service de la société. Donc, comment expliquer cette apparente démission du politique face à la finance? Parmi les principales raisons qu'on peut évoquer, il y a évidemment la capture de la finance, de ses dirigeants, enfin des dirigeants politiques et des régulateurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu un très profond renouvellement de la théorie de la capture suite à la crise financière. Donc s'il y a bien un domaine dans lequel la crise a apporté quelque chose, c'est ce profond renouvellement de l'approche de la capture. Donc comme vous le savez, le concept de capture désigne les différents canaux par lesquels l'industrie, bon là les banques, c'est pareil pour les pesticides, etc., influence le régulateur et les décideurs publics dans un sens qui favorise leur intérêt au détriment de l'intérêt général. Donc il y a deux acceptions de la capture. Il y a la capture au sens étroit, donc celle que les économistes ont travaillé, et il y a une capture au sens large. Donc la capture au sens étroit, ça désigne très spécifiquement les processus par lesquels l'industrie régulée, donc là en l'occurrence la finance, manipule les autorités en charge de la réglementation et de la supervision. Et évidemment, l'un des canaux directs qui a été mis en exergue très très tôt, c'est les opportunités de carrière qui sont offertes par l'industrie aux régulateurs et aux fonctionnaires susceptibles d'influencer le formatage des réglementations. Donc évidemment, d'abord, c'est un canal qui ne fonctionne que si les salaires sont supérieurs, très supérieurs, dans la finance, au monde d'où viennent ceux qui sont captés, c'est-à-dire au monde des régulateurs et de l'économie publique. Et cet argument est intéressant parce qu'il comprend aussi pourquoi il permet de comprendre aussi pourquoi les ONG qui font du contre-lobbying technique ont du mal à se faire entendre parce qu'ils n'offrent justement pas ce différentiel de salaire. D'autres facteurs font que la banque et la finance sont un terrain privilégié de cette capture au sens étroit. C'est qu'il y a un ensemble de prérequis, disons, de caractéristiques qui font qu'une industrie est plus perméable à la capture, enfin, plus apte plutôt à capturer ses régulateurs. Il faut que les groupes d'intérêt soient concentrés et organisés, que la réglementation soit techniquement complexe, que les asymétries d'information soient fortes et que leur vérification par les outsiders soit difficile. Vous avez reconnu toutes caractéristiques qui s'appliquent parfaitement bien à l'industrie financière et donc qui a une prédisposition particulière à la capture, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme ça a été rappelé par Marc Chesnais, on est face à une industrie bancaire qui est hyper concentrée et qu'en fait on a un groupe de banques au niveau international qui ont un poids considérable. A contrario, les autres groupes d'intérêt, que sont les déposants, les PME qui n'ont pas d'autre source de financement que le crédit bancaire, les épargnants, eh bien, ont beaucoup de mal à s'organiser en contre-pouvoir et donc à faire. Et donc, on est face à un jeu d'influence totalement déséquilibré, des parties prenantes qui certaines n'arrivent pas du tout à faire entendre leur intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que la capture peut aussi être pensée dans une acception beaucoup plus large, qui inclut des processus de capture beaucoup plus diffus, mais en même temps beaucoup plus insidieux, beaucoup plus pernicieux, parce que là, on agit sur la tête des gens. C'est la capture corrosive, la capture intellectuelle, la capture cognitive et la capture, voire idéologique. Donc le concept de capture corrosive me semble particulièrement intéressant. Je reprends l'expression de Carpenter et Mauss. Ça intervient quand les acteurs régulés parviennent à altérer la robustesse et l'efficacité de la réglementation relativement à ce que le législateur souhaiterait au nom de l'intérêt public. Et donc c'est la formulation et la mise en œuvre de la réglementation qui conduisent à ce qu'elle soit moins contraignante, qu'elle morde moins, qu'elle soit moins coûteuse pour l'industrie que ce que suppose l'intérêt public. Alors pour être un peu concret, typiquement dans l'industrie bancaire, le fait d'avoir reconnu les modèles de contrôle interne des banques dans le calcul de leur capital réglementaire, c'est de la capture corrosive, c'est-à-dire ça ronge de l'intérieur l'efficacité de la réglementation, et pire que ça, ça donne un faux sentiment de sécurité aux citoyens. Mais regardez, nos banques sont bien capitalisées, regardez, je peux vous afficher un taux de capitalisation, un ratio de capitalisation qui semble excessivement protecteur, ouais, mais quand on regarde le levier simple et quand on ne regarde pas l'actif pondéré par les risques, ça change du tout au tout. Et plus les banques sont grosses, plus l'écart entre les deux est important. Alors il y a eu quelques avancées là avec la finalisation de Bâle III, mais bon, là je sors de mon sujet. La capture intellectuelle ou idéologique favorise évidemment le développement de cette capture corrosive qui ronge de l'intérieur en fait l'efficacité de la réglementation. Dans le domaine de la finance, la capture intellectuelle, on en a parlé à la table ronde précédente, a été portée par des écoles de pensée qui ont irrigué partout et qui ont justifié, favorisé la déréglementation, mais au nom d'une vision totalement fantasmée de ce que c'est qu'une finance déréglementée. Les mécanismes d'identification sociale sont également un vecteur très important de capture au sens large, c'est-à-dire qu'ils ont une influence très forte sur les régimes de supervision et de régulation et sur cette vision complètement déformée de ce que fait réellement l'industrie, son apport à la société, et qu'ont même les financiers, qu'ont intégré les financiers. C'est pas toujours « je veux faire un mal ». Exactement. L'un des effets collatéraux donc de cette crise, ça a été qu'effectivement il y a eu des tas de travaux, je pense notamment aux travaux de Quack, qui est Baxter notamment sur ces questions, et qui mettent en exergue le rôle des interactions sociales, le rôle de la formation, d'où l'importance effectivement d'une table ronde sur l'éducation, etc., les réseaux familiaux, sociaux, etc., dans la constitution d'un paradigme pro-industrie chez les régulateurs. Et appréhender ces phénomènes de capture de cette manière aide à expliquer la perméabilité en fait d'une société, de ses décideurs, de la haute administration au discours porté par l'industrie. Et ça affaiblit les défenses immunitaires de la société face à la finance. Et il faut absolument le combattre de la manière la plus vive possible. Et là, je parle notamment des revolving doors et de ce qu'a porté et justifié le nouveau management public. Donc le nouveau management public prône la supériorité des modes de gestion privés et leur exportation dans des sphères qui jusque-là en étaient restées assez éloignées, comme par exemple les hôpitaux, l'éducation, tout ce qui est des grands partenariats publics-privés, etc. Et évidemment la finance et la réglementation de la finance. Et donc l'État néolibéral a légitimé le recours systématique aux conseils privés pour des questions de réglementation financière. La frontière publique-privée s'est estompée dans tout un tas de champs, et une zone où on a des élites politico-administratives qui circulent, soit avec des carrières, soit de manière synchronique, soit diachronique. Les mêmes personnes sont dans des positions de prise de responsabilité. Cet espace d'influence, si vous voulez, fait qu'ils peuvent agir très en amont des réglementations sur des réponses, alors ça Finance Watch le sait bien, des réponses concertées et groupées aux consultations de la commission, le noyautage des agences de conseil, le lobbying auprès des parlementaires, la rédaction clé en main de projets de loi et d'amendements, etc. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des travaux empiriques récents. Je pense notamment aux travaux de Veltrop et Hahn, de Mishra Rechef, qui soulignent les effets pernicieux des revolving doors empiriquement, hein, sur le fait que les superviseurs et régulateurs, quand ils viennent du privé, alors bon, là je résume vraiment beaucoup, hein, par des mécanismes d'identification sociale, ils font moins bien leur rôle et ça affaiblit considérablement de l'intérieur la régulation. Et donc, et ce qui est très important de comprendre, je pense, parce que là, on sort complètement du champ de la pure finance, c'est que les portes tournantes ne posent pas seulement un problème de capture. Les portes tournantes nourrissent également la suspicion générale d'impartialité et de loyauté vis-à-vis de l'intérêt général. Et c'est un poison pour nos démocraties qui alimente le populisme. Et c'est précisément ce qui a été à la base d'un rapport que j'ai coécrit avec deux juristes qui s'appelait « Conflit d'intérêts, nouvelles frontières de la démocratie » qui portait sur ces conflits d'intérêts dans la vie publique, dans la santé et dans la finance. Donc la vie publique, on a eu un certain impact, la finance, aucun. On partait de ça, on partait de ce constat-là, du fait que les conflits d'intérêts et des personnes qui sont mises en situation de conflit d'intérêts systémique, hein, ça nourrit cette idée d'entre-soi, et que cette idée d'entre-soi, ce tous pourris, mais en réalité, il y a un fond de vérité là-dedans. C'est ça le problème, quoi. Et on peut pas le nier. Le fait que de cette porosité est vraiment, délétère, quoi. La captation du débat sur la réglementation et le contrôle des banques par les banquiers, par les experts de la haute administration, qui tournent, qui passent de l'un à l'autre, etc. Alimente également et permet une capture par la complexité. C'est-à-dire, ça permet de dire aux citoyens, c'est très très compliqué la finance, mais vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Pour avoir été très engagée sur le débat sur la loi de 2013, la dite de séparation, on voit la capture agir et la capture par la complexité agir. C'est-à-dire que on voit cette porosité. Vous donniez un argument au ministère à l'encontre du lobby bancaire. Le lendemain, vous aviez le contre-argument qui était fallacieux. Hein, par exemple, tout ce qui s'est passé sur le market making était complètement fallacieux, ce qui a été dit. Mais c'est tellement technique qu'ils achètent, quoi. Ils ont tellement peur que ça conduise à un renchérissement du financement de l'État qu'ils achètent. Bon, enfin bref. Donc voilà. Et moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut, il faut favoriser une contre-expertise citoyenne. Il faut absolument que les ONG n'aient pas à passer, qui s'occupent de ça, hein, et qui font pas juste du plaidoyer, qui font aussi du contre-lobbying technique. Il faut pas qu'ils passent leur temps à aller chercher de l'argent privé, mais pour une raison très simple d'économie publique, hein, basique. Si l'industrie bancaire arrive à infléchir la réglementation dans le sens qui les intéresse, eh bien à ce moment-là, ils en bénéficient, c'est-à-dire que les gains de cet allègement de la réglementation sont captés par l'industrie. Mais si la société civile ou une ONG arrive à faire infléchir la loi dans un sens qui est favorable à l'intérêt général, mais cette inflexion va bénéficier à tous. Et donc d'où l'intérêt du passager clandestin, ça ne peut pas être financé, ça. Par voie privée, c'est pas possible. C'est exactement la même chose que l'armée, les routes. On peut pas avoir d'incitation à payer puisque l'intérêt, ce qui va en bénéficier n'est pas captable par ceux qui l'ont produit. Donc c'est vraiment un problème basique d'économie publique qui fait que ça doit être financé par l'impôt. Voilà, j'arrête là.